OK, on va tourner avec moi dans la parole de Dieu dans le psaume 145. Donc, en 1714, le roi Louis XIV est décédé après avoir régné pendant 72 ans. Il s'était donné lui-même comme surnom, en fait, le Grand. Alors, Louis le Grand. Et en fait, c'est celui qui a fait cette fameuse déclaration « Je suis l'État ». Sa cour était la plus magnifique de l'Europe à cette époque et ses funérailles furent également spectaculaires. Son corps fut exposé dans un cercueil en or et des ordres furent donnés pour que la cathédrale soit éclairée avec une simple bougie placée sur son cercueil pour amener les gens à avoir les yeux rivés sur le cercueil pendant toute la cérémonie funèbre. Et au service de commémoration, en fait, des milliers de personnes attendaient en silence. Alors ensuite, eh bien, l'évêque Macron, qui a amené le sermon, s'est dirigé lentement vers le cercueil. Il a fait ça avec la bougie. Et il a dit, « Seul Dieu est grand. » Amen. « Seul Dieu est grand. » Et c'est béni parce qu'à travers la présidence, ce matin, on a souligné ces choses-là. Et j'aimerais demander à Jean-François qui me prépare comme dernier chant, « Ton nom est grand. » On va le rechanter à la fin. Parce que c'est un chant qui nous démontre vraiment la grandeur de Dieu. Combien notre Dieu est grand. Quoiqu'à notre époque, nous utilisons le mot « grand », eh bien, on dit souvent, hein, j'entends souvent des commentaires à la télévision, on dit « c'est un grand champion, c'est un grand homme, c'est une grande femme, c'est une grande équipe ». Mais en fait, aujourd'hui, on utilise des mots sans vraiment connaître la signification aussi de ces mots-là. Et heureusement qu'on a la parole de Dieu, on a l'étymologie des mots, si en hébreu ou en grec, qui nous donne vraiment la racine même du mot. Et Dieu seul est vraiment grand et impressionnant. Et notre façon de concevoir Dieu, finalement, par rapport à tous les mots qu'on utilise à droite et à gauche, on lit ici à un moment donné « Dieu est grand ». Et on peut faire une référence à un joueur de football qui est grand, c'est le plus grand de tous. Hein, comme Mohamed Ali, l'ancien boxeur, je me souviens des années 60, il disait « I am the greatest », je suis le plus grand, quoi. Et aujourd'hui, ben, il est très, très malade, quoi, hein, avec tous les coups qu'il a reçus, quoi. Mais il se proclamait dans son orgueil démesuré, Mohamed Ali, en casus clé, disait « Je suis le plus grand, I am the greatest ». Et ce qui nous amène finalement à faire en sorte que notre façon de concevoir Dieu est nettement insuffisante, et nous ne parvenons pas à saisir pleinement jusqu'à quel point sa sagesse et sa puissance sont illimitées. Parce que nous sommes nous-mêmes des êtres limités et faibles, nous nous imaginons finalement jusqu'à un certain point que Dieu est aussi limité, et il nous semble difficile de croire qu'il ne l'est pas. Et la preuve, souvent, c'est qu'on a des problèmes, on vit des situations difficiles, et la première chose qu'on fait, on va aller se confier à des hommes, à des femmes, plutôt que de se confier à Dieu. Pourquoi? Parce que notre façon de définir les mots entre les êtres humains, on l'applique aussi à Dieu. Mais Dieu transcende nos mots. Et les mots que nous utilisons quand on dit qu'un tel homme ou telle personne est grand, eh bien, quand on dit que Dieu est grand, il n'y a aucune comparaison possible, quoi. Nous pensons que Dieu nous ressemble beaucoup. Et le psaume que nous allons regarder ensemble ce matin, le psaume 145, eh bien, va vous aider à réaliser, si ce n'est pas encore fait ce matin, jusqu'à quel point la majesté de Dieu est incomparable. La majesté de Dieu est incomparable. Frères et sœurs, on n'a pas un petit Dieu, quoi. Le Seigneur, ce n'est pas une statue de plâtre ou une statue de bronze. Le Seigneur, écoutez, il tient l'univers dans ses mains, quoi. La majesté et la grandeur de Dieu. Et vous savez ce que vous êtes là-dedans? Un grain de poussière. À travers tout l'univers, qui est invisible à l'œil nu, et que seul Dieu peut voir dans sa grandeur, dans sa majesté, quoi. C'est extraordinaire. C'est incroyable, la grandeur de Dieu. On a besoin, en tant qu'Église de Jésus-Christ, de vraiment bien saisir que Dieu est grand. Dieu est grand ce matin. Et la dernière fois, on a regardé un psaume, le psaume 78, on s'est dit, on s'est posé la question, Dieu pourrait-il? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu de réaliser? Il n'y a rien qui est impossible. Et notre frère Michael l'a cité tantôt dans un passage, à cause de, parce que Dieu est grand. La puissance de Dieu, elle est illimitée. Sa bonté, elle est illimitée, frères et sœurs. Dites amen à ça. Ouais. Le psaume 45, ici, est un joyau, 145 est un joyau de louange qui sort de la bouche de David. Et frères et sœurs, j'aimerais simplement prendre un temps avec vous ce matin, pas pour porter un jugement, pas pour qu'on se sente coupable ou quoi que ce soit. Ça dépend de notre arrière-plan religieux, ça peut dépendre aussi de notre arrière-plan, tout simplement. Mais David va nous donner un enseignement incroyable, comment il faut louer le Seigneur, quoi. David, c'est un homme qui savait louer le Seigneur, quoi. Et David, jamais quand il loue, il va parler de lui, quoi. Quand il loue le Seigneur, il parle de celui à qui il s'adresse, quoi. C'est pas « Seigneur, je te remercie de m'avoir donné ça. Merci, Seigneur, de m'avoir donné ça. » Ça, c'est pas de la louange. Et David va nous donner une très bonne leçon ici, comment louer le Seigneur. Il va nous parler de sa grandeur, il va nous parler de sa bonté. Il va nous parler de sa miséricorde, de sa compassion. Et pourquoi il s'adresse à Dieu? Pourquoi il dit « Seigneur, merci pour ta bonté? » Parce que Seigneur, si tu n'étais pas bon, s'il y avait un once, pas un gramme ici, hein, un gramme de méchanceté dans ton cœur, Seigneur, je n'existerais même plus de la surface de la terre. Seigneur, si tu n'étais pas bon, je manquerais de tout, Seigneur. Seigneur, si tu n'étais pas miséricordieux, Seigneur, si tu n'avais pas de compassion, je serais perdu pour l'éternité. La louange, c'est à Dieu qu'elle va, la louange. Amen. Et on a besoin, dans l'Église de Jésus-Christ, on a besoin de réapprendre comment louer le Seigneur. Et ce n'est pas à moi de vous l'enseigner ce matin, mais la parole nous est laissée pour qu'on puisse apprendre tous ensemble à louer et à glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. On a des exemples avec Moïse. En Deutéronome, il y a une prière de louange extraordinaire de la part de Moïse. Dans les nombres aussi, dans les différents psaumes et dans d'autres livres aussi, David nous donne des modèles de louer le Seigneur, écoutez, qui vous fortifient, qui vous font grandir. Et vous savez ce que ça nous amène à apprendre aussi? Ces hommes, ils avaient une relation incroyable avec Dieu. Incroyable avec Dieu. Ils avaient de la difficulté à parler d'eux parce qu'ils savaient ce qu'ils étaient par rapport à Dieu. Et ils pouvaient le louer pour sa grandeur, pour sa miséricorde et sa compassion. Seigneur, comment tu fais, Seigneur, pour me choisir, moi? Moi, pauvre pécheur. Moi qui ai perdu pour l'éternité, tu daignes jeter ton regard sur moi. Moi qui ai vécu sans toi pendant tant d'années. Moi qui ai commis tel et tel péché, que j'ai de la difficulté à oublier, alors que toi, tu l'as déjà oublié puisque je te l'ai confessé. Et ici, on a un psaume incroyable, le psaume 145. Le psaume 145, vous savez pourquoi il est unique? Il ne contient que des paroles de louange. Aucune parole d'action de grâce, ni aucune prière, le psaume 145. Comme le psaume 86, dont le titre est « Prière de David », ici, le titre du psaume, en tout cas, je ne sais pas dans votre Bible, le titre, dans l'hébreu, c'est « Psaume », c'est « Louange de David ». Et il a été écrit dans un but bien précis. Ce psaume est magnifique quant à son contenu, et il est à couper le souffle quand vous voyez comment David fait la description de Dieu. À l'époque, il y avait une bénédiction particulière qui était associée à ce psaume. Selon les anciens Israélites qui récitaient ce psaume deux fois le matin et une fois le soir, une personne qui chantait à haute voix ce psaume à trois différentes reprises dans la journée, elle était bénie. Ça, c'est la tradition qui disait ça. Vous récitez trois fois ce psaume dans la journée et tu vas être béni. Tu vas être heureux, bien heureux. Tu seras béni. Et peut-être que nous devrions suivre cet exemple aujourd'hui. Je ne doute pas qu'on deviendrait beaucoup plus heureux si on lisait ce psaume trois fois par jour pendant un mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Se lever le matin, d'abord, là, puis lire le psaume. Je t'exalterai, ô Dieu mon roi. Mais on va le voir en français courant parce qu'il y a des gens ici qui commencent à s'initier à la parole de Dieu. On va le lire dans le français courant. C'est beaucoup. C'est peut-être moins profond au niveau des mots, mais c'est plus compréhensible au niveau des expressions qui sont écrites. Le psaume 145 fut écrit avec un seul but en tête, c'est louer le Seigneur. En fait, si vous regardez les 6 derniers psaumes dans le livre des psaumes, ce sont des psaumes de louange avec comme introduction, eh bien, le psaume 145. Et cette section spéciale est précédée de 5 psaumes de prière. 5 psaumes de prière et 5 psaumes de louange qui complètent le livre des psaumes. Pourquoi? Parce que la prière et la louange sont deux choses qui vont ensemble. Vous remarquerez qu'il n'y a aucune requête ni aucune confession des péchés dans le psaume 145. C'est un psaume de louange. C'est la louange qui est prononcée envers ce Dieu grand, impressionnant, qui est le nôtre. Écoutez simplement le psalmiste lorsqu'il parle avec le Seigneur. « Je t'exalterai. » Ça veut dire quoi? « Je veux dire ta grandeur. » « Je te bénirai. » Hein, les deux premiers versets. Ça veut dire quoi? « Je veux exprimer ma reconnaissance éternelle. » « Je célébrerai ton nom. » Ça veut dire quoi? « Je louerai ton nom. » David ne voulait pas attendre d'être au ciel pour louer le Seigneur. Parce que vous savez que c'est ce qu'on va faire. Hein? Pendant l'éternité, on va louer le Seigneur. Donc, on est mieux s'entraîner maintenant. Hein? Parce qu'à travers les occupations que Dieu nous prévoit pour nous, pour l'éternité, on va devoir... devoir. Ce ne sera jamais un devoir, quoi. Hein? J'espère. Il faut rendre au ciel qu'il n'y aura pas de devoir. Ce sera un privilège pour nous de louer le Seigneur pour l'éternité. Il y a un verset dans les Écritures qui nous dit aussi que c'est un privilège pour les chrétiens de louer le Seigneur maintenant. Et là, il va commencer par exprimer sa louange à Dieu tous les jours de sa vie. Pourquoi devons-nous commencer à pratiquer la louange dès maintenant? Eh bien, c'est simple, je le répète, c'est parce qu'on est appelé à passer l'éternité à louer le Seigneur. Et lorsque le Dieu est le centre de notre vie, eh bien, on peut le louer à tous les jours, frères et sœurs. Parce que vous trouverez toujours des paroles de bénédiction à proclamer. Peu importe jusqu'à quel point les circonstances de votre vie peuvent être difficiles. Car pour celui qui loue, les circonstances de la vie sont une fenêtre à travers laquelle il voit Dieu. Seigneur, il m'est arrivé ça. C'est pas le fruit du hasard. Vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de hasard, hein? Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu? Amen. Voilà un sujet de le louer, quoi. Il n'y a pas de hasard, donc on sait que Dieu est derrière, quoi. On sait que si ça nous arrive, c'est Dieu le permet. Et il y a une raison pourquoi Dieu le permet. Et on va le voir aussi à travers le psaume tantôt. Là, je suis dans l'introduction. Quoi. Pour celui qui est habitué à se plaindre, ces mêmes circonstances seront seulement vues comme un miroir à travers lequel il se voit lui-même. Voilà pourquoi il se plaint. Frères et sœurs, la foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu est la source de nos bénédictions, mais aussi lui faire confiance à travers les circonstances de la vie, à travers les circonstances douloureuses souvent aussi que nous traversons. La Bible affirme dans 1 Pierre chapitre 3, versets 13 à 15, pardon, « Si vous avez à souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous en serez bénis. » C'est pas moi qui le dis, hein? « Si vous devez souffrir parce que vous avez fait quelque chose de juste, il y a une bénédiction qui vous attend. » Et on est dans une génération où on a horreur de souffrir. La preuve, vous allez voir quelqu'un à l'hôpital, et ils n'ont pas peur de mourir, les gens, ils ont peur de souffrir, quoi. Même s'ils savent pas où ils s'en vont, ils ont peur de souffrir. On est dans une génération où la souffrance, ça nous horripile, d'où toutes ces lois où on passe l'euthanasie et tout le reste, quoi. Ouais. Empêcher les gens de souffrir, quoi. Ouais. Le libre choix de mourir, mais en fait, le but, c'est pas d'avoir la liberté de mourir, c'est de pouvoir raccourcir nos jours pour éviter de souffrir, quoi. On est dans cette génération où le mot « souffrance », ça nous fait horriblement, horriblement mal. Frères et sœurs, Dieu voit dans l'avenir et nous, on ne voit rien, quoi, dans l'avenir. Que le chemin devant nous soit facile ou rocailleux, nous devons adopter la même attitude d'adoration, sachant que Christ est le Seigneur de notre vie. Et la semaine passée, je n'ai pas pu en parler, mais parce que notre frère Ernest, vous savez, c'est difficile d'arriver en avant après, puis de réappliquer sur un sermon que quelqu'un a fait, bon, c'est difficile, quoi. On peut penser que l'autre veut renchérir, et ainsi de suite. Mais la semaine passée, vous vous souvenez quand il a parlé de Paul et Silas qui sont en prison? Vous savez ce qu'ils font au milieu de la nuit? Ils sont pas en train de dire « Pourquoi, Seigneur, tu m'as choisi? Pourquoi, Seigneur, tu m'as élu? Pourquoi, Seigneur, tu m'as appelé à prêcher l'Évangile? Ça n'a pas de sens. Regarde où je suis rendu, Seigneur. » Ils sont en train de louer le Seigneur, quoi. Parce qu'ils reconnaissent que même en prison, Dieu est là et Dieu a un plan pour eux en prison. Et Dieu a un plan incroyable en prison. Notre frère nous l'a rappelé la semaine passée. Il y a le geôlier et sa famille qui devaient se convertir. Et frères et sœurs, quelqu'un qui voit que Dieu est grand toutes les circonstances, qu'elles soient favorables ou défavorables, il va voir la main de Dieu derrière tout ça, toutes ces circonstances, et il va être en mesure de les louer. On tombe malade et souvent on pleure, quoi, parce qu'on est malade, et souvent on regarde aussi est-ce que j'ai commis un péché, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal. Mais Dieu est quand même derrière la maladie, et Dieu nous parle énormément dans la maladie, et Dieu nous parle plus souvent profondément dans la maladie que quand on est en santé, parce que quand on est en santé, souvent on a les deux oreilles et on n'entend pas Dieu, quoi. Mais quand Dieu vient travailler dans notre corps, avec une maladie, que ce soit le cancer ou autre, ben là, Dieu nous parle. D'abord, il nous rappelle que nos jours sont comptés sur la terre. Ah, il peut nous guérir, j'ai aucun problème avec ça. Mais il veut nous rappeler des choses en tant que croyant. En tant que croyant, notre éternité n'est pas sur la terre, et dans le ciel, quoi. Il veut peut-être aussi rétablir une relation qu'on a négligée avec lui. Parce que Dieu veut toujours être le premier dans notre vie. Et si on passe à la deuxième, des fois, ils nous envoient des avertissements. On les laisse aller, les avertissements. Ah, Dieu, miséricordieux, compassion. Mais Dieu nous aime et il ne voudra jamais passer le deuxième dans votre vie. Et si ça ne va pas dans votre santé, il ne vous atteint pas dans votre santé, il va vous atteindre à un moment donné dans la maladie. Ça, c'est, je pense, pour moi, en tout cas, ça m'est arrivé. Ça, je pense que c'est le moyen ultime de Dieu pour aller chercher son enfant. Dirais-je, je t'ai donné cet avertissement. Tu as balayé ça du revers de la main. Maintenant, je vais te faire passer par une épreuve où tu n'auras pas le choix de crier. De crier après moi. Et quand ça en arrive là, bien, vous louez le Seigneur. Parce que tu dis, Seigneur, je te remercie parce que cette expérience-là m'a démontré jusqu'à quel point tu m'aimais, quoi. Parce que même dans la maladie, si tu as permis que je sois malade, j'ai senti non seulement le Créateur, mais j'ai senti le Père, l'amour du Père qui me portait dans la maladie. Frères et sœurs, David a commis un péché épouvantable. Il s'est repenti. Et Dieu était capable de dire, j'ai trouvé en David un cœur selon mon cœur. Et aujourd'hui encore, Dieu cherche des gens où il pourra dire du haut de là-haut dans le ciel à ses anges, regarde mon fin enfant, regarde cette fille, regarde cet homme. Ce sont des personnes qui ont un cœur selon mon cœur. Ce sont des gens dont je suis le premier dans leur vie. Ce sont des gens qui s'appliquent à mettre en pratique la parole que je leur ai laissée. Et là, on loue le Seigneur, quoi. On loue le Seigneur tous ensemble. Frères et sœurs, on est ici le matin, frères et sœurs, le dimanche matin, pas pour assister à un spectacle, pas pour se montrer en spectacle, j'espère que non, mais pour glorifier le seul qui est digne d'être glorifié. Que les anges dans le ciel le dimanche matin et Dieu qui est sur son trône de gloire et de grâce puissent entendre ses enfants dire, « Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es rempli de compassion. » Et d'être capable de dire, « Je ne la mérite pas. Merci parce que tu es un Dieu gracieux. » Ouais. C'est ce que le Seigneur s'attend d'entendre de ses enfants le dimanche matin. Seigneur, la semaine n'a pas été du tout comme je pensais qu'elle serait. Mais Seigneur, je te glorifie parce que tu ne m'as pas fait défaut dans les bons comme dans les mauvais moments. Tu étais présent. Tu es fidèle à tes promesses, Seigneur. Ouais. Et t'as un péché à confesser, bien tu le confesses, quoi. Ouais. Seigneur, tu as été cinquième cette semaine. Seigneur, j'ai été 3 jours sans te prier, Seigneur. Seigneur, ça fait un mois que je ne lis pas ma Bible, Seigneur. Ouais. Alors, je ne t'approche rien. Si je suis rendu à ce point-là dans ma relation avec toi, ce n'est pas de ta faute, Seigneur, c'est de la mienne, quoi. Seigneur, je ne suis pas nourri depuis un mois. Je ne suis pas nourri depuis 6 mois. Je ne suis pas nourri depuis un an, parce que ça arrive aussi, hein? Il y a une période de famine spirituelle dans nos vies. Ouais. Seigneur, je te demande pardon. Parce que ce n'est pas toi qui s'est éloigné de moi. C'est moi qui s'est éloigné de toi. Et pourquoi, Seigneur? Parce que j'avais d'autres priorités dans ma vie. D'autres priorités. Et là, tu permets qu'une épreuve arrive dans ma vie, simplement me secouer. Et Seigneur, là, comme la femme qui avait des pertes, qui était victime de pertes d'hémorragie depuis 12 ans, qui était par tous les médecins possibles, qui ont fait les poches, qui ont vidé sa fortune, qui n'avait plus de moyens de se payer un médecin, bien, comme cette femme-là, Seigneur, maintenant, je viens voir, je viens me présenter devant Jésus. Pour qu'il mette du baume sur mon cœur, pour qu'il me guérisse, pour que ma relation puisse redémarrer avec toi. Et là, je te loue, Seigneur, maintenant. parce que je sais que tu es fidèle et juste, me pardonner tout péché. Et je sais qu'à ta droite, il y a un avocat qui plaide pour moi, qui intercède pour moi. Et Seigneur, je veux te remercier pour Jésus. Ouais. La louange qui est due à Dieu, le dimanche matin. Quand ça nous touche chez nous, bien, on peut être dans le secret de notre chambre, on peut parler de nous avec le Seigneur, il n'y a pas de problème, c'est personnel, c'est intime. Mais le dimanche matin, on est là pour proclamer la grandeur de Dieu, pour proclamer les bienfaits que Dieu fait dans chacune de nos vies. Pourquoi? Pour glorifier Dieu, pour encourager le peuple de Dieu, pour exhorter les gens aussi, pour les fortifier dans leur foi. C'est une des raisons pourquoi le peuple de Dieu se réunit le dimanche matin. Amen. Qu'y a-t-il de si impressionnant, notre Dieu, pour motiver le psalmiste à le louer? Il y avait quatre différents aspects. Je vais enlever ma montre pour regarder où on est rendu. Quatre différents aspects de la personne de Dieu et de son œuvre qui l'emballait. Premier aspect, les versets 3 à 6. Dieu est vraiment grand. Pour David, ce n'était pas des mots. Il le vivait. Il avait vécu avec ce Dieu qui était vraiment grand. Et là, je vais sortir ma français courant. On va le lire ensemble en français courant au complet, puis on va lire en même temps les versets 3 et 6 en passant. Mon Dieu, toi le roi, je veux dire ta grandeur. D'un mot hébreu, au lieu de dire ici, c'est je veux parler de ta grandeur, Seigneur. T'exprimer ma reconnaissance éternelle. Je veux le faire tous les jours et te glorifier sans fin. Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué. Hey, on n'est pas avec un deux de pique, là, hein? On est avec quelqu'un là qui vit quelque chose de sérieux avec son Dieu, quoi. C'est comme si son Dieu n'est pas là, son Dieu est à côté de lui, quoi. On ne peut pas parler comme ça, quoi, si Dieu est étranger à notre vie, quoi. On ne peut pas parler de cette façon-là dans le psaume 145, si Dieu est lointain, si Dieu nous paraît lointain. Hey, c'est quelqu'un qui est proche de son Dieu. C'est quelqu'un qui a parlé avec son Dieu, quoi, dans la prière, et Dieu lui a répondu, quoi. Et là, il s'exprime que chaque génération... Non, le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué, et sa grandeur est sans borne. Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tes exploits. Et vous savez ce que nos enfants ont besoin d'entendre dans nos foyers? Vous savez ce que nos parents, la parenté a besoin d'entendre dans nos foyers? C'est ce que Dieu a fait dans nos vies dans le passé, et c'est ce que Dieu continue à faire dans nos vies pour les amener à Jésus-Christ. Les gens, ce n'est pas à coup de versets bibliques qui ont besoin et qui vont se convertir, quoi. C'est à partir du témoignage vivant de chaque femme, chaque homme qui se dit enfant de Dieu, né de nouveau en Jésus-Christ, quoi. Ouais. Moi, je vais te dire ce que Jésus a fait dans ma vie. Vous savez, les gens, je rencontre des gens, je l'ai dit mercredi, à l'étude biblique. Des fois, les gens me disent, moi, je suis chrétien depuis 35 ans, 25 ans. Alors, moi, tout de suite, je leur dis, écoute, donne-moi trois choses que Dieu a changées dans ta vie depuis que tu es chrétien, toi. Et les gens sont incapables de me dire quoi que ce soit, quoi. Hey, la rencontre de Jésus-Christ à la croix, c'est un miracle, quoi. Ça bouleverse des vies, quoi. Ça nous transforme. Tu passes de la nuit au jour, quoi. Tes yeux sont changés. Ta façon de penser est changée. Ta façon de vivre aussi a changé. Tu prenais plaisir à vivre dans le péché avant. Et Dieu a fait un miracle dans ta vie. Il t'a donné un cœur nouveau, quoi. Et maintenant, quand tu regardes le péché que tu baignais dedans avant, eh bien, tu le trouves épouvantable, quoi. Et tu te dis, tu vois plus loin que ça, comment ai-je pu faire pour commettre un tel péché? Tu vois ce péché comme étant un poison mortel qui cherchait à te tuer pour l'éternité de la présence de Dieu, quoi. Quels sont les changements que Dieu a apportés dans votre vie depuis que vous avez rencontré Jésus-Christ, frères et sœurs? Pour que ce matin, on puisse le louer. Combien il est grand, quoi. Le Dieu qui tient l'univers dans ses mains est capable de se faire tellement petit pour pénétrer dans notre cœur par son esprit, habiter en nous, et nous parler 24 heures sur 24 à travers sa parole, quoi. Extraordinaire, n'est-ce pas? Et c'est ce que David vivait, quoi. Et il nous le partage ici. Verset 5, je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur, et faire le récit de tes merveilles. raconter ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Raconter comment tu m'as bouleversé. Et que ce n'est pas le fruit du hasard, que ce n'est pas un homme qui a fait ça dans ma vie. Hein, juste raconter à chaque fois que Dieu lui a permis d'échapper à Saül pendant toutes ces années. Ça tient du miracle, quoi. Juste raconter, lui qui était un petit berger, qui est monté sur le trône d'Israël, ça tient du miracle, quoi. Et il peut te partager. Quand Absalom a voulu voler son trône, qui a couché avec ses concubines à la face du peuple d'Israël sur le toit, quoi. David dit à son commandant, « Ne faites pas de mal à mon fils Absalom. » Mais ça, là, pour être capable d'avoir cette compassion, il faut avoir rencontré la compassion de Dieu, quoi. Parce qu'Absalom, non seulement il voulait voler son trône, il voulait tuer son père, quoi. Et David, il nous donne son vécu ici. Verset 6, qu'on parle de ta puissance redoutable. Moi, je veux énumérer tes hauts faits, Seigneur. Qu'on rappelle tes grands bienfaits et qu'on proclame avec joie ta fidélité. On rencontre des gens sur la rue qui critiquent le système, qui sont découragés, quoi. Qui n'ont plus confiance dans nos gouvernements, qui n'ont plus confiance en rien, quoi. Qu'est-ce que l'enfant de Dieu peut y apporter? Il y a un autre genre de vie à vivre. Il y a une autre espérance, écoute, que tu peux, dans laquelle tu peux t'investir, quoi. Ça, c'est l'enfant de Dieu, quoi, qui a une relation avec Dieu. Mais quand quelqu'un critique, un gars du monde critique, qu'on commence à critiquer avec lui, on n'est nulle part, hein? On vient de perdre notre témoignage, hein? Ouais, c'est tout des pourris, le gouvernement. Ben oui, t'as raison! Ben oui, non! Ben, je vais te présenter quelqu'un qui règne, moi, qui est loin d'être pourri, puis ne sera jamais pourri, puis qui veut te bénir, quoi. C'est Dieu. En Jésus-Christ. Je veux rien savoir, c'est pas votre problème, ça. En tant qu'enfant du royaume, vous êtes tenu, quoi. Vous êtes tenu debout. Vous avez partagé, quoi, votre espérance. Verset 8. Le Seigneur est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté. Le Seigneur est bon pour ses enfants, non? Le Seigneur est bon pour tous. Son amour s'étend à tous ceux qu'il a créés. Que tous ceux-là te louent, Seigneur, que tes fidèles t'expriment leur gratitude. Verset 11. Qu'ils parlent de ton règne glorieux. Qu'ils disent de quoi tu es capable. Frères et sœurs, Dieu est-il capable dans votre vie de vous utiliser pour toucher leur des gens et leur dire, écoute, il y a une autre sorte de vie, un autre style de vie à vivre. Qu'ils disent de quoi tu es capable. Frères et sœurs, les gens ont besoin d'entendre ce dont Dieu est capable. Et on l'a vu, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Ils apprendront ainsi aux humains tes exploits et la glorieuse majesté de ton règne. Ton règne, verset 13, est un règne éternel. Ton pouvoir dure à travers tous les siècles. Le Seigneur tient fidèlement ses promesses. Il a dit que ceux qui lui appartiennent, il va les ramener de la mort à la vie au dernier jour. Frères et sœurs, vous devez avoir une certitude que c'est vrai parce que Dieu n'est pas un menteur. Amen. Il va vous ramener de la mort à la vie, frères et sœurs. Il a aussi fait cette promesse qu'on va régner avec Jésus-Christ dans le royaume des dieux. Eh bien, il ne vous amènera pas dans le royaume des dieux pour faire de vous des esclaves. Vous allez régner avec Jésus-Christ. Alors, vous pensez qu'on va régner à se tourner les pouces, à se regarder, là, les millions là, qui sont là, quoi, en ligne? Hey! Non, hein? Hey, frères et sœurs, vous allez être assis à la table, même table, aux noces de l'agneau que Noé. Vous êtes invités à la même table. Adam, Noé, Abraham, Jacob, Isaac, Noé, avec sa grosse barbe, hein, qui va nous raconter comment ça s'est passé durant le déluge. Peut-être, s'il s'en souvient. Et Lazare ressuscité des morts, ramené de la mort à la vie. Et tous les autres qui nous ont précédés. Quel Dieu, quelle grandeur Dieu a. Ton règne est un règne éternel, ton pouvoir dure à travers tous les siècles. Deuxième partie du verset 13, le Seigneur tient fidèlement ses promesses. Tout ce qu'il fait est marqué de sa bonté. Le Seigneur soutient tous ceux qui sont tombés. Amen. Frères et sœurs, quand vous tombez, tout de suite, il y a ça qui apparaît. C'est pas Dieu qui apparaît, frères et sœurs. C'est son bras qui est tendu pour vous relever. Vous l'avez, cette image de photocopier dans votre cerveau? Vous tombez. Hey, la main est tendue. pas il attend qu'on lui tende la main, il pourrait attendre longtemps. La main est déjà là. C'est une promesse qu'il nous fait. Le Seigneur soutient ceux qui sont tombés. Il remet debout tous ceux qui fléchissent. Tous ont les regards fixés sur toi, attendant que tu leur donnes à manger au moment voulu. C'est toi qui ouvres ta main et satisfais les besoins de tout ce qui vit. On n'aura pas le temps de le voir ce matin. Mes frères et sœurs, il faut être équipé en cuisine, hein, pour fournir de la viande, pour fournir tout ce que les Israélites avaient besoin pendant 40 ans dans le désert, hein. Et nous, on s'inquiète de quoi on va être vêtu, quoi. Ils n'ont pas usé leurs souliers ni leurs vêtements pendant 40 ans. À partir du moment où ils ont mis de pied en Canaan, c'était fini. La manne est arrêtée, quoi. Mais dans le désert, hey, Dieu était là, quoi. Dieu était présent. Et Dieu avait un rôle à jouer particulier avec son peuple. Aussitôt qu'ils ont conquis le pays, Dieu a dit, écoutez, maintenant, on passe à une autre étape. Verset 18, verset 17. La fidélité du Seigneur apparaît dans tout ce qu'il entreprend, sa bonté dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur est proche de ceux qui l'appellent, de tous ceux qui sont sincères en l'appelant. Moi, je vais vous raconter quelque chose. Quand je lis les Écritures, quand je lis les prières des gens dans les Écritures, les prières, encore une fois, les prières de ceux qui sont exaucés, c'est souvent les prières où les gens pleurent, crient dans la détresse, invoquent le Seigneur dans une tristesse incroyable, quoi. C'est comme ils prient, là, puis ils sont convaincus que la seule solution, là, elle est là. Et ça prend un miracle, quoi. Ça prend un miracle. Les médecins ont fait ce qu'ils ont pu, les autres ont fait ce qu'ils ont pu, les frères et sœurs ont fait ce qu'ils ont pu. Donc, on priait. Oui, Seigneur, tu sais comment, oui, mes besoins, Seigneur, tu sais que j'ai besoin de ça pour arriver à la fin du mois, oui, Seigneur. Mais là, écoute, il n'y a personne qui répond à tes besoins sur la terre. Et là, tu cries, là, tu n'as pas le choix. Tu dis, écoute, la seule solution, moi, je suis croyant, la seule solution est en haut, là. Ouais. Et quand vous lisez la vie de Georges Muller, hein, c'est exactement ça, quoi. Et vous savez comment Dieu teste notre foi? Il répond toujours, toujours à la dernière minute. Muller, ça le stressait de voir que Dieu répondait toujours, toujours à la dernière minute. Il a nourri 1200 orphelins sans jamais demander une seule scène à personne. Il ne sera plus capable de faire ça aujourd'hui, pas avec les normes qu'on a. Et Dieu l'a utilisé pour fortifier la foi d'un nombre incroyable de chrétiens à son époque. Vous savez, vous avez 1200 orphelins dans un bâtiment, vous vous couchez le soir, il n'y a pas de repas le lendemain matin de préparer. Ici, on envoie de la police, on envoie tous les services sociaux, on vide les orphelinats. Hein? Ben, à son époque, ça ne se passait pas comme ça. Lui, il a démarré les orphelinats à l'Angleterre, donc on le suivait, quoi. Il a sorti nos enfants des pénitenciers avec des abuseurs sexuels, avec des criminels de haute gamme, quoi. Hein? Parce que là-bas, en Angleterre, à ce moment-là, un enfant qui perdait ses parents, il n'y avait pas d'orphelinat, on le plaçait dans les pénitenciers jusqu'à 18 ans avec les criminels, quoi. Lui était touché, il est parti des orphelinats. Et vous vous couchez le soir, écoutez, un soir, il va se coucher, il y a 1200 enfants, le cuisinier vient le voir, il dit, écoutez, les frigos sont vides, il n'y a plus rien pour demain matin. Rassemble l'équipe, on va prier. Dieu est un Dieu qui pourvoit. Dieu promet, Dieu fournit. J'ai déjà raconté, hein, mais je le raconte pour les nouveaux. Les autres, vous pouvez... Il y a un gars qui passe avec sa charrette le matin, sa charrette de lait, les laitiers, hein, vous savez, les laitiers avec les deux chevaux, là, deux, quatre chevaux avec les bons. Sa roue, elle casse juste en face de l'orphelinat, quoi. Il n'y a pas de frigo, là, il y a ses gros bidons de lait, et il va les perdre, quoi. Et il doit les descendre parce qu'il doit réparer sa roue, et il n'y a pas les ingrédients pour réparer sa roue, il doit faire venir quelqu'un, et ça va prendre des heures. Il va frapper à l'orphelinat, c'est drôle, il est tombé en panne juste en avant de l'orphelinat, quoi, avant le déjeuner. Et là, il vient frapper, puis il dit, « Excusez, monsieur, est-ce que vous voudriez prendre mes bidons de lait? Parce que, bon, je peux rien faire, je suis en panne, et ma roue est brisée. Ouais. » Eh bien, écoutez, lui, là, Muller, la foi gros comme un... Ben, oui, gros comme un grain de moutarde, hein, mais la foi d'un enfant, il se met à genoux, puis il loue le Seigneur, quoi. Et là, tu as un boulanger qui s'en vient à la course, il vient le trouver, il dit, « Écoutez, monsieur Muller, moi, je ne vous connais pas vraiment, mais il y a une voix qui m'a réveillé durant la nuit, qui m'a dit, « Fais 400 pains. » pour la famille de Georges Muller. Mais il retombe encore à genoux et dit, « Seigneur, je te demande pardon pour mon manque de foi. Hey. » Et cet homme-là, il avait-tu un véhicule avec le Seigneur, quoi? Et il va très loin au niveau de sa foi. Hein? Il dit qu'un chrétien qui se ramasse de l'argent dans son compte de banque, c'est un chrétien qui n'a pas la foi. Parce qu'il compte son argent en banque plutôt que compter sur Dieu. Et il ne peut pas s'attendre à recevoir de Dieu. Il va très loin, hein? On a un bonhomme qui a vécu, qui est mort à 93 ans. Qui est aussi fort à 93 qu'il en avait à 23 ans. Ouais. Ça, c'est des sermons qu'on ne peut pas prêcher aujourd'hui, hein? Ouais. Incroyable, quoi. Un gars comme David. Il aurait pu écrire un psaume à lui tout seul, Georges Miller. Des bonnes gifles pour nous, ça, hein? Il y a des chrétiens qui jouent à la bourse. Il y a des chrétiens qui jouent ici. Il y a des chrétiens qui perdent à la loto. Il y a des chrétiens qui se lancent d'argent à droite et à gauche, espérant gonfler, s'amasser des trésors sur la terre plutôt que dans le ciel. Et en plus, ils s'attendent de collecter des intérêts de la part de Dieu. Moi, je vous dis ce matin, les portes du ciel vous sont fermées, mes frères et sœurs. Dieu ne passera jamais, jamais le deuxième là-dedans non plus. Verset 19, il répond aux demandes de ses frères. Il les sauve dès qu'il entend leur appel. Le Seigneur protège tous ceux qui l'aiment, mais il élimine les méchants. Que ma voix chante la louange du Seigneur. Que tout ce qui vit remercie le Dieu Saint pour toujours. Que ma voix chante la louange du Seigneur. La semaine prochaine, on commencera le message. Ensemble, les quatre aspects qui se trouve dans ce psaume-là. C'est extraordinaire, quoi. Donc, on va le faire en trois parties. Mais le premier aspect, c'est Dieu est vraiment grand, les versets 3 à 6. Aussi, Dieu est grand dans sa personne. Dieu est grand dans sa bonté, dans ses attributs. Frères et sœurs, on a besoin, nous, de saisir en tant que chrétiens. Et on va terminer avec ça et on va projeter le chant. La gloire de Dieu, quoi. On a besoin, en tant que chrétiens aujourd'hui, de contempler la gloire de Dieu, de savoir qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu, frères et sœurs. La gloire de Dieu, ça comprend trois choses. Ça comprend d'abord la puissance de Dieu. Jean chapitre 1, les derniers versets avant le chapitre 2, aux noces de Cana, il est écrit que c'est là que Jésus a fait son premier miracle et que la gloire de Dieu s'est manifestée. C'est quoi? Dieu a manifesté sa puissance. Il a changé l'eau en vin. Il n'a pas changé le vin en eau, il a changé l'eau en vin. Maintenant, écoutez, je vais vous mettre simplement pour tester votre foi ce matin. C'est les miracles que Dieu a pu accomplir qui étaient plus difficiles de changer l'eau en vin. Est-ce que vous croyez que c'était plus difficile à Dieu, à partir de rien, de créer l'univers que de changer l'eau en vin? Non, hein? Ce qui est le plus difficile pour Dieu, le miracle à lequel Dieu a le plus de difficultés, c'est d'amener quelqu'un à se repentir de ses péchés, à se détourner de ses mauvaises voies, à se convertir et à entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une part, et notre frère l'a très bien rappelé Ernest la semaine passée, il y a une part qui est dédiée à l'homme, quoi. Ouais. Dieu a fait tout le travail à travers la personne de Jésus-Christ. Et Dieu dit maintenant, voici le miracle que je te place devant toi. Reconnais-tu que tu as besoin de moi? Reconnais-tu que tu as besoin de mon Fils pour être sauvé? Reconnais-tu que tu as besoin de reconnaître que tu es perdu, quoi? Que tu es perdu à travers tes péchés? Et que plutôt que de déverser ma colère sur toi, eh bien, je déverse ma grâce sur toi, puisque je te permets d'entendre l'Évangile. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, écoute, tu es un pécheur, je veux te sauver. Le seul moyen d'être sauvé, ce n'est pas par tes œuvres. C'est par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Il a pris sur lui. On a un chant tantôt qu'il a chanté. Il a pris sur lui ma condamnation. Ah, Seigneur. Il a pris sur lui ma condamnation. Et il en a puni un autre à ma place. pour que je puisse avoir accès à son trône de gloire pour l'éternité. Quel miracle! Moi qui baignais dans le péché, qui s'amusais dans le péché, il m'a sauvé. Il a touché mon cœur à travers son évangile. Gloire à Dieu! Dieu est grand, frères et sœurs. Et c'est le miracle le plus difficile que Dieu peut accomplir encore aujourd'hui. D'amener les gens à passer de la mort à la vie. Transformer le cœur des gens. En faire des fils de roi, des filles de roi, des héritiers du royaume. Des prêtres en Jésus-Christ. C'est le miracle le plus difficile que Dieu peut accomplir. Plus difficile que d'avoir créé le ciel et la terre, l'univers. Plus difficile que d'avoir changé l'eau en vin. Parce que ça dépend de l'homme et de la femme. Il y a une partie de l'homme et de la femme qui doit répondre. Ah, frères et sœurs, sauvés de la condamnation pour l'éternité. Gloire à Dieu. On va se lever, on va chanter ce cantique.